J'aimerais, pour commencer ce message, vous poser une simple question. Est-ce que vous connaissez dans la Bible le verset le plus petit? Ah, tac au tac, c'est Insté. Ah, Insté vous enseigne que le verset le plus petit, c'est Jean 11, 35. Et ça ne fait même pas partie des versets à apprendre. Donc pour ceux qui ne font pas l'INSTEE, je vous encourage à faire l'INSTEE pour apprendre Jésus pleura, qui ne fait pas partie des versets à apprendre. Je cite ce texte parce qu'on va y revenir en fait, et vous allez comprendre pourquoi. Vous savez, quand on parle de Jésus-Christ, on parle souvent de Jésus-Christ, fils de Dieu. Quand vous parlez dans la rue, même les gens qui ne sont pas très familiers avec le christianisme, la croyance, la foi chrétienne, ils savent déjà que les chrétiens disent que Jésus est le Fils de Dieu. Fils de Dieu, il fait des miracles, il fait des prodiges. Nous, on dit que Dieu est tout-puissant, plein d'amour, plein de bonté. Il est le faiseur de miracles. Il guérit, il baptise de l'Esprit, il sauve. Et on a raison de croire ça. Mais des fois, on se focalise sur quelque chose et on néglige une autre partie. Et c'est ce que je voudrais un petit peu méditer ce soir. On va faire un survol sur, en fait, Jésus, fils de l'homme. Cette expression de Jésus, fils de l'homme, c'est une expression qui veut tout simplement dire, en fait, et qui parle de la nature humaine de Jésus. Jésus, c'est Dieu qui s'est incarné, c'est-à-dire qu'il s'est fait homme. Il a perdu ses prérogatives en tant que Dieu pour prendre la forme d'un simple serviteur, d'un simple homme, avec ses limitations. Jésus pleura. On peut le voir, en fait, vous savez, quand on lit la Bible, on lit très rapidement des fois, et il y a des petits détails des fois qui sont un petit peu quand même marquants. Et j'aimerais relever avec vous ces détails dans la Bible, dans le livre des évangiles, qui marquent les aspects de l'humanité du Christ. Par exemple, on voit dans Matthieu 4, du verset 1er au verset 2, que Jésus a éprouvé la faim et la soif. Dans Matthieu 4, Jésus est dans le désert, et voici ce qu'il dit. Enfin, voici ce que l'Évangile dit. Après ces choses, Jésus fut tenté par le diable, et ne mangea rien durant 40 jours et 40 nuits. Ensuite, il eut faim. Dans Jean, chapitre 4, au verset 6, il est dit que là se trouvait le puits de Jacob, et Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure, c'est-à-dire midi. Jésus a éprouvé de la tristesse et de l'angoisse. L'évangile de Matthieu, chapitre 26, versets 37 à 38. Jésus prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, c'est-à-dire Jean et Jacques, et commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » En somme, Jésus a connu la fatigue, la tristesse, la tentation et la fragilité humaine, sans jamais faillir. Est-ce que vous voyez tous ces petits détails de Jésus qui a vécu la soif, la faim, la fatigue, qui sont ces caractéristiques qui font que il est 100% homme, cette nature humaine. Vous savez, lorsqu'on imagine un idéal par rapport à un super-héros, on le voit toujours invincible, parfait, fantastique, merveilleux, extraordinaire, toujours prêt en fait. Et on a apposé sur ce super-héros tout notre idéal en fait. Et lorsque ce super-héros ne correspond pas à l'image que l'on voudrait, c'est là qu'on connaît la déception. Les écrivains sacrés, les quatre évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, auraient juste pu, quand ils ont écrit les évangiles, noter la vie de Jésus sans mentionner ces parties-là. Ils auraient juste pu mentionner que Jésus, il est né de Marie, il a grandi en stature, en sagesse. Il a prêché dans la synagogue. Il prêchait avec autorité, il a accompli des prodiges, des miracles, et tellement de choses. Jusqu'à tout ce voyage, jusqu'à la croix, mort et ressuscité. Toute cette partie de la nature divine du Christ, le faiseur de miracles, le Dieu qui s'est approché des hommes, ce super héros. Mais les évangélistes ont décidé de noter ces petits détails. Jésus pleura. Jésus eut faim. Jésus était fatigué. L'humanité du Christ, c'est un Jésus-Christ qui est capable d'exprimer ses émotions sans gêne, ni embarras, mais avec une grande liberté. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, au verset 21, par exemple, Jésus tressaillit de joie. Dans Marc, chapitre 3, verset 5, Jésus se mit en colère. Il était affligé. Dans Matthieu 26, verset 37, on l'a vu, Jésus fut saisi d'angoisse. Dans Marc 6, verset 6, il exprima son étonnement et sa perplexité. Et dans Luc 7, 9, la même chose. Son étonnement. Je vous cite les passages, mais en fait, pour remonter dans le contexte, c'est quand Jésus est perplexe et étonné lorsqu'il prêche à Nazareth, et puis en fait, les gens ne croyaient pas en lui. Et là, il y avait peu de miracles. Il était étonné de voir qu'il y avait autant d'incrédulité. Il était étonné de voir aussi, donc dans Luc 7, 9, la foi d'un centenier. On aurait pu dire qu'en fait, que Jésus, en fait, il fait ce qu'il a à faire. On ne décrit même pas ses émotions, ni même ces choses-là. Mais la Bible nous parle et décrit ces émotions-là. Pourquoi ? Normalement, quand on parle d'un homme, on ne veut pas parler de ses faiblesses, on veut parler que de ses forces. Pourquoi parler de la faiblesse ? Il n'avait pas peur du « quand dira-t-on ? » Imaginez quelqu'un que vous admirez beaucoup, avec qui vous passez du temps, et puis en fait, vous le voyez tout le temps que les bons côtés. Et vous voulez voir que ses bons côtés, parce que ça vous arrange. Ça nous arrange d'avoir un Jésus, fils de Dieu. Mais est-ce que ça nous arrange d'avoir un Jésus, fils de l'homme ? Vous avez déjà posé cette question ? Qu'est-ce que ça signifie d'avoir Jésus, fils de l'homme, à mes côtés ? Qu'est-ce que ça signifie d'avoir Jésus, fils de l'homme ? On a honte des fois, non ? On a honte des fois d'exprimer notre douleur, notre souffrance, tous nos problèmes. Des fois, quand on est en colère, on a l'impression que j'ai mal fait, j'ai péché. Ou alors que quand je suis triste, mais mince, je ne suis pas un vrai chrétien. On va croire que je suis incrédule, que je n'ai pas suffisamment de foi en Christ, en fait. Que lorsque je pleure, je suis un homme ou une personne faible. Tous ces signes qu'en fait, finalement, c'est la culture d'aujourd'hui, qu'importe notre éducation, nous montre que c'est une marque de faiblesse. Et on veut se montrer fort par rapport aux autres. Mais Jésus n'avait pas honte de montrer cet aspect humain, ses faiblesses. C'est quelque part l'exemple qu'il veut nous montrer. Parce qu'il ne veut pas qu'on soit quelqu'un qui montre le meilleur de nous-mêmes. Une façade, la vitrine. Ce que Dieu cherche sont des adorateurs en esprit et en vérité. Des gens vrais, des gens authentiques. Et nous avons tendance à refouler, à réprimer et à être dans le déni quand il s'agit des émotions négatives. Non, je ne suis pas en colère, c'est pas vrai. Oui, mais l'intonation de ta voix le dit. Non, c'est pas vrai, tu mens. Ok, je mens. Non, je ne suis pas triste. Par la grâce de Dieu, ça va aller. Il faut sauver les façades. Il faut sauver les apparences. Ça vous fait penser à un type de personne dans la Bible ? Non ? Vous savez, ceux qui veulent sauver les apparences ? les pharisiens. Au final, malgré tout, on vit des choses extraordinaires avec Dieu. On prie, on chante, on loue, on est transformé par Dieu. Et on prêche, on entend et on écoute des enseignements sur les traditions, sur la religion. Et on dit, les pharisiens, c'est pas vraiment ce à quoi on voudrait ressembler. Mais paradoxalement, c'est bizarrement ce dont on est, finalement, on ressemble quelque part. On veut sauver les apparences comme eux. Regarde, Seigneur, je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce Samaritain. Moi, je te donne la dîme de tout, je prie tous les jours, je jeûne deux fois par semaine. Moi, j'enseigne, mais je ne fais pas ce que j'enseigne. Je ne pratique pas mon enseignement. Moi, je connais la loi. Moi, je connais la Bible. Mais je ne mets pas en pratique ce que je comprends de la Bible. J'ai le cerveau d'un théologien à 8 étages. Mais quand il s'agit d'aller aimer la personne qui est juste à côté de moi, c'est très compliqué. C'est ça, les pharisiens. Je comprends qu'il faut qu'on soit un peuple racheté, sanctifié, qui tend vers la perfection. Mais Jésus n'était pas là à dire « Soyez dans le déni quant à vos défauts, quant à vos émotions négatives, quant à toutes ces choses-là. » Parce que Jésus est venu guérir les maladies, mais il est venu aussi guérir les cœurs. Et comment peut-on guérir un cœur si on ne lui présente pas ce cœur blessé? Quand vous allez chez le médecin, il vous reçoit et vous dit « Bon, vous êtes venu pourquoi ?» Et vous lui décrivez les symptômes. Donc il vous diagnostique une maladie et vous prescrit des médicaments. Quand vous êtes dans le déni, que voulez-vous que le médecin fasse avec vous? Devine quelle maladie j'ai? Dieu veut te guérir. Mais si nous marchons dans le déni, si nous marchons dans le refoulement de ce que l'on a dans nos cœurs, négatif, traumatisme, ça ressurgit d'une manière ou d'une autre. Vous savez, il y a quelque chose que l'on voit, on arrive à le constater. Je ne suis pas en train de faire la psychologie, mais ça y ressemble. Vous savez, quand on est malade, on est guéri. Amen. Miracle de Dieu. Ok. Parce que là, c'est facile. Mais on néglige aussi cet aspect moral, psychologique. Ok. Quand, par exemple, nous vivons un trauma, qu'importe lequel, il y a une étape dans notre âme qui fait que nous sommes dans le déni. Et malgré tout, par exemple, si on a eu un accident de voiture, parce qu'on a roulé trop vite, en fait, ce trauma, on va l'avoir, on peut peut-être ne plus toucher la voiture. On dit que le temps va guérir notre âme et ce trauma. Et on se rend compte que si on est dans le déni, la personne qui va conduire la voiture va peut-être même plus vouloir conduire la voiture. Parce qu'il repensera en fait à chaque fois inconsciemment à cet accident-là. Pour les gens qui ont vécu des choses extrêmement difficiles dans leur enfance, on le revoit et ça se manifeste quelque part. Les blessures intérieures sont là et ça se manifeste dans le comportement. Ça se manifeste par l'appréhension avec notre relation les uns avec les autres. Ça se manifeste avec une sorte de surréaction par rapport à certaines circonstances qui peuvent rappeler ces choses-là. Et on se dit tout va bien parce que Jésus va guérir. Oui, Jésus va guérir, mais toi, il faut que tu admettes que tu as un problème. Si tu dis à Jésus que tu n'as pas de problème, Jésus ne fera rien. Vous savez, c'est un gentleman. Hein? Et pour moi, c'est quelque chose d'incroyable parce que Jésus nous montre cet exemple. Parce qu'il avait besoin du Père. Lui qui était maître, rabbi, il n'a pas eu honte devant ses disciples à montrer ses émotions, ses sentiments, ses peurs et ses angoisses, sa colère, s'est pas dit, oh mince, j'ai peur de la crédibilité à leurs yeux. Il s'est pas dit, oh mince. En fait, ce côté humain de Jésus fait qu'on est plus proche de Dieu. Avant, lorsqu'on pensait à Dieu, on pensait à un Dieu tout-puissant. Mais malgré tout et inconsciemment, un Dieu puissant tout lointain, qui par sa grâce, un jour, va peut-être agir dans ma situation. Mais Jésus-Christ fait homme, nous montre qu'en fait, c'est un Dieu qui s'est incarné pour dire, vois-tu l'épreuve par laquelle tu es passé? J'y suis passé. Tu es fatigué? Moi aussi, j'étais fatigué. Tu es passé par cette épreuve. Je suis passé par cette épreuve. Tu as connu le rejet? J'ai connu le rejet. Tu as connu l'angoisse et la peine? La peur? J'ai connu l'angoisse et la peur. Alors quoi? Il peut alors mieux compatir avec nous. Qui mieux que Jésus? Et nous sommes là à nous faire la guerre, être rivales les uns des autres. Moi, je suis plus spirituel. D'ailleurs, c'était le combat des disciples. Moi, je vais être à ta droite, Jésus. Moi, je vais être à ta gauche. Moi, je vais être le premier. Moi, je suis le meilleur parce que Jésus, il a dit que maintenant, je m'appelle Pierre. C'est fini, mon ancien nom, Simon. Maintenant, c'est Pierre. Et sur cette pierre, Jésus va bâtir son église. Mais Pierre est pour moi un super exemple. Parce que même les évangélistes, Matthieu, Marc, Luc, Jean, auraient pu montrer des disciples accomplis, extraordinaires. Mais Pierre, c'est le meilleur. Il montre à quel point il est vrai et authentique. À quel point il aimait Jésus. Mais à quel point il était maladroit. Et ô combien Jésus n'était pas en train de le condamner en disant « Pierre, ouais non, je te recale, tu fais plus partie des 12 là, je te rétrograde, c'est fini. » Non, il a pris parmi les 3 qui étaient avec lui à Gethsémané. Il a vécu tellement de choses. Il a marché sur les eaux. Même s'il a coulé, mais il a marché sur les eaux. Ça dépend de comment vous voyez les choses. Est-ce que vous voyez Pierre qui est incrédule et qui coule, ou Pierre qui sort de la barque et qui marche sur les eaux? Mais Dieu fait avec qui on est. Et c'est ça la chose la plus forte. David était un homme, un roi. Il avait une position. Il n'était pas comme Saül qui disait, mince, ça va être chaud. Parce que là, si le peuple il sait que le Dieu, l'Éternel, m'a un petit peu rejeté, ça va être un peu chaud. Samuel, tu peux juste ne pas trop le dire. Mais je serai toujours roi. Hein. Et David, on verra plus tard, je vais essayer de le tuer. Il a cherché à sauver les apparences, Saül. Mais David, alors qu'il a vécu tout ce qu'il a vécu, toutes les erreurs qu'il a commises, il était celui qui s'attachait à Dieu. Il était celui qui n'a pas caché qu'il a commis un adultère, qu'il a commis un meurtre, qu'il y a eu des moments d'orgueil. Et si David n'était pas ce qu'il est, si Pierre n'était pas aussi celui qu'il était, mais là c'est David, on n'aurait pas eu ces psaumes. Tous les psaumes qui nous font du bien. C'est quoi les psaumes? C'est le déversement de l'âme des hommes qui ont écrit ces chants. Pour Dieu, à la gloire de Dieu. Je ne parle pas du fait d'exprimer ses émotions de manière, on va dire, très invasive. Il ne faut pas confondre entre accepter ses émotions, savoir les exprimer et les manifester de manière exubérante pour montrer à tout le monde qu'on est super triste. C'est pas ça ce que je veux dire. Il ne faut pas confondre non plus se laisser emporter par ses émotions. Si vous regardez à chaque fois, Jésus se mit en colère, c'était en fait parce que les pharisiens dans la synagogue étaient en train de murmurer contre lui parce que il y avait un malade qui avait la main sèche et se posait la question, est-ce qu'il est permis de accomplir des prodiges, de guérir un jour de sabbat? Ces théologiens haut de gamme qui, eux, au lieu de s'intéresser aux miracles, s'intéresse au fait qu'un miracle puisse se passer le jour du sabbat. Vous voyez le truc? Ça n'a pas empêché Jésus en colère de guérir le malade. Lorsque Jésus pleura, le contexte c'est Jésus pleura parce que son ami Lazare est mort. Quand l'un d'entre nous, dans notre entourage, décède, d'ailleurs c'est ce qui est arrivé il n'y a pas si longtemps dans notre entourage à nous, à Delphine et à moi, on est triste et on pleure. Et Jésus ne l'a pas caché. Même s'il est fils de Dieu, il aurait pu dire, c'est bon, je suis fils de Dieu, j'arrive, je vais le ressusciter les gars. Il arrive, il pleure, il compatit avec les sœurs, Marthe et Marie. Et ensuite après, il ne se laisse pas emporter par ses émotions. Ce n'est pas ses émotions qui dictent ses actes. Il dit, je vais faire ce que le Père m'a demandé de faire. Lorsqu'il est dans le jardin de Gethsémané et qu'il prie, qu'il vit dans l'angoisse, dans la peur, il ne se laisse pas dominer par ses émotions, ni par l'angoisse, ni par la peur. Il est dans ce combat spirituel où il répand son cœur au Père. Seigneur, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Pourquoi? Parce que même dans sa nature humaine, il avait cette relation avec Dieu le Père. Et il nous montre cet exemple que même dans nos combats humains, ici sur la terre, nous avons Dieu le Père. Qui peut-être dans notre tête et dans notre conception est si loin, mais en fait qui est si proche de nous. Et ça, on a peut-être tendance à l'oublier dans nos épreuves. On pense tellement à notre souffrance, tellement à nos épreuves, tellement à toutes ces choses qui nous font du mal. Le frère, la sœur, les circonstances, le patron, qu'importe. Qu'on oublie que Jésus est là. Qu'on oublie que Dieu le Père est là. C'est entre autres pourquoi la nature humaine du Christ, c'est important. Parce que de Jésus-Christ homme, Dieu le Père, c'est pas qu'il est plus proche de nous, c'est qu'on peut concevoir maintenant un Dieu plus proche de nous. Avant, dans le désert, Dieu était celui qui donnait la manne, celui qui exauçait. Mais pour le peuple hébreu, c'était un Dieu lointain. Qui se sont dit, peut-être après 400 ans de persévérance, de cris, de larmes et de joie et de plaintes, Dieu m'exaucera peut-être un jour dans sa grâce. Et qu'aujourd'hui, par la force de nos habitudes, on croit que, oui, baptisé du Saint-Esprit, plein d'autres choses, je sers dans l'Église et tout, etc. Peut-être qu'un jour, Dieu, dans sa grâce, me bénira, comprendra ma situation. Mais Dieu le sait. Dieu voit. Dieu voit ton cœur actuellement. Dieu voit ton cœur dans ta chambre. Dieu voit ton cœur quand tu te lèves le matin. Dieu te voit quand tu es en colère. Et tu crois que tu fais mal quand tu t'exprimes avec colère. Et tu crois que tu fais mal quand tu exprimes ta tristesse. Et tu crois que tu fais mal quand tu exprimes ta peur. Pierre était-il condamné? David était-il condamné? Tous les hommes qui étaient dans l'entourage de Jésus-Christ étaient-ils condamnés? Ce que Jésus a condamné, c'était les gens durs. Durs dans leur cœur. Ces personnes dont on ne voudrait pas ressembler. Et pourtant, auxquelles peut-être on ressemblerait le plus, malheureusement, parfois. Pour conclure, j'aimerais prendre l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, au verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, Jésus-Christ, qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Alors quoi faire? Verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Je voudrais juste lire la version Semeur un peu plus actuelle, avec des mots un peu plus compréhensibles. Ainsi, puisque nous avons en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Il a su se maîtriser. Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment, dans le timing de Dieu. Essayez de sauver les apparences. Quand des personnes nouvelles arriveront, on leur apprendra à faire comme ces pharisiens, à essayer de sauver des apparences. Alors que si nous sommes vrais, nous leur transmettrons le fait de comment gérer les émotions avec l'aide de Dieu et par la grâce de Dieu pour qu'ils se sentent acceptés. Et je pense que c'est l'un des besoins dans lequel on a tous se sentir acceptés. Sentir accepté d'une personne importante, Dieu, mais se sentir aussi accepté par nos pères. P-A-I-R. E. Par nos semblables. Parce que mon frère, ma sœur passe par des épreuves sous une forme qu'importe laquelle. Je ne suis pas là pour juger de sa spiritualité, de son manque de foi ou pas, mais je suis là pour l'accompagner. Je suis là pour l'aider, pour prier avec elle. C'est ça. C'est la vocation de l'Église. C'est ce que nous sommes appelés à être comme Christ. Oui, nous sommes appelés à faire des prodiges, des miracles en son nom. Mais nous sommes aussi amenés et appelés à propager son amour par son exemple. Et c'est par sa grâce que je peux le faire. Si je suis triste, c'est par sa grâce que je peux m'en sortir. Oui, je suis triste actuellement. Mais Dieu est là. Dieu est avec moi. C'est alors que je suis faible, que je suis fort. Ce n'est qu'une partie de ce qu'on peut tirer comme leçon par rapport à l'humanité du Christ. Dieu voulant, j'aborderai d'autres aspects, d'autres leçons à tirer sur son humanité. Mais je voudrais juste m'arrêter là pour ne pas être trop long, pour prier ensemble et réaliser à quel point la nature humaine du Christ est super importante. Non seulement pas pour notre intelligence, mais parce que du coup, je réalise qu'en fait, c'est un Dieu de proximité. Un Dieu accessible. Plus accessible que ce que je peux en penser. Seigneur, je te remercie. Je te remercie parce que toi, tu n'as pas eu honte. Tu n'as pas eu honte de pleurer devant tes disciples. Tu n'as pas eu honte de pleurer devant les gens. Tu n'as pas eu honte de montrer que tu avais peur, que tu étais dans l'angoisse. Tu n'as pas eu honte, Seigneur mon Dieu, de dire que tu avais faim, que tu pouvais avoir soif, que tu étais fatigué. Tu n'as pas eu de honte, Seigneur mon Dieu, à montrer que tu pouvais tressaillir de joie, que tu pouvais exprimer, Seigneur mon Dieu, toute ta joie. Seigneur, merci pour cet exemple. Parce que nous voulons être, Seigneur mon Dieu, ces enfants vrais, qui se montrent de tel que nous sommes, Seigneur mon Dieu. On ne veut rien te cacher, Seigneur, parce que de toute façon, tout est à nu. Et Seigneur mon Dieu, tu es là et tu veux nous guérir, tu veux nous bénir. Seigneur, toutes les choses que l'on peut vivre dans notre passé, tous les traumas que l'on a pu vivre dans notre passé, toutes les choses difficiles par lesquelles on peut passer actuellement, Seigneur, on peut peut-être faire le fier devant, on peut peut-être faire le fort, Seigneur mon Dieu. Mais je te prie de nous aider, Seigneur, parce que nous sommes une communauté qui, ensemble, persévérons dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la prière, dans la fraction du pain, Seigneur, et c'est dans la paix que tu rajoutes des gens qui doivent être sauvés. Seigneur mon Dieu, aide-nous. Aide-nous à réaliser toutes ces choses-là. Aide-nous à comprendre vraiment que tu es vraiment plus proche que ce qu'on pense, Seigneur mon Dieu. Que je ne suis pas seul dans cette épreuve. Que je ne suis pas seul, Seigneur mon Dieu, dans ces choses dans lesquelles j'ai vécu dans le passé. Que je ne suis pas seul, Seigneur mon Dieu, dans les moments les plus difficiles de ma vie. Mais que tu es là. Seigneur mon Dieu, dans les bons moments, je ne veux pas t'oublier. Comme dans les mauvais moments, je ne veux pas t'oublier. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour tout, Jésus. Merci pour l'authenticité de qui tu es. Merci pour tout, Jésus. Amen. Amen.